Bonsoir à toutes et tous, nous sommes dans la voiture pour le dernier sprint du trajet de retour de la chute Seine-Vizée où Servette vient de perdre 1-0. C'est le moment aussi où on écrit un petit peu l'article et on discute de nos analyses d'après-match et où on se rend compte parfois aussi que nos micros de smartphone sont pas assez puissants pour capter la très 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 douce voix de Steve Rouillet quand à côté sur les haut-parleurs joue du Dembo à la chute Seine-Vizée. Donc on compense peut-être avec un petit mot post-analyse avec Max Berthou qui nous a déjà quitté, mais Thomas Zinguignon à mes côtés. Voilà, en un mot ce match, Thomas.
Décevant, c'est plus ou moins la même chose, mais je pense que c'est un petit peu ce qui prédomine après cette défaite. Décevant parce que je pense que tous les supporters Grenat ont un petit peu ce rêve qu'on touche presque du bout des doigts de voir Servette soulever le trophée à la fin de la saison. Et c'est clair que chaque défaite nous en éloigne un petit peu, sachant surtout que Young Boys a un match à jouer maintenant avec le même nombre de points que Servette. Donc, décevant parce que Winterthur, on se dit toujours, ça va, c'est une équipe qui vient de monter en Super League, mais c'est gentiment plus le cas. Et c'est gentiment une équipe qui commence à avoir vraiment sa place en Super League. Et on l'a encore vu ce soir, malheureusement. Et du coup, Servette va devoir remettre l'ouvrage sur le métier assez rapidement pour pas laisser filer Young Boys et pour ne pas voir aussi Lugano revenir.
Non, effectivement, c'est une équipe qui a une âme, ce FC Winterthur. Et je suis allé faire des recherches. Ça fait depuis 1974 que Winterthur n'a plus fini une saison à la quatrième place. Donc là, ils la partagent. Enfin, ils sont derrière le FC Zurich à la différence de but, mais ils sont pas loin de rééditer cet exploit. Ça fait 50 ans. Et puis d'un autre côté, on aimerait que Servette puisse aussi donner cette même impression sur le terrain. Alors après, l'enjeu entre arriver quatrième et premier, il n'est pas du tout le même. Et on sent peut-être que cet enjeu, il peut habiter les esprits de manière néfaste pour la qualité du jeu. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que dans la voiture au trajet pour aller à Winterthur, on se disait, bon, une trêve internationale, c'est l'occasion de travailler sur les trucs qui ne jouent pas. Par exemple, les transitions défensives, les longs ballons, les coups de pied arrêtés, puisqu'il vient avec généralement les duels aériens. En fait, on a vu aujourd'hui sur le terrain exactement les mêmes failles que celles auxquelles on faisait référence.
Ouais, on les a vues. Surtout, c'est la chose que je mettais le plus en avant de mon côté, c'était cette condition défensive. Le but vient de là, comme les deux buts pris à Lucerne, comme le but pris contre Lausanne. Donc, les quatre derniers buts viennent du fait que Servette ne se replie pas suffisamment bien après avoir attaqué. Malheureusement pour Bradley Mazikou, trois de ces quatre buts viennent de son côté. Mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas lui en vouloir tellement qu'il offre offensivement. Et pour une équipe qui essaye tenter plus d'aller marquer face à un bloc bas, forcément que tu t'exposes à ce genre de contre. Et puis Mazikou ne peut pas être partout sur un terrain, donc malheureusement il n'était pas là, ce qui cause ce but. Donc ouais, moi c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant, et pour moi c'est le plus gros point à travailler pour Servette. C'est que peut-être des fois la volonté de René Weiler, qui a une très bonne volonté, moi j'adore ça, d'avoir énormément de joueurs dans la surface adverse quand on attaque, fait forcément qu'on se retrouve des fois dans des situations complètement improbables où on se retrouve à 2 contre 3 à défendre derrière, et ça fait souvent but.
Puis ce que j'ai trouvé intéressant, puis on en a débattu un petit peu après le match, mais c'est ce pressing adverse qui déstabilise Servette de plus en plus régulièrement. Et je pense que c'est aussi parce que les équipes chez qui ce pressing fonctionne, c'est celles qui savent où l'appliquer. Beaucoup d'équipes pratiquent un pressing total, mais ça veut dire que les efforts ne sont pas concentrés. Et là, on l'avait déjà vu à Yverdon, lors de la défaite 2-1. Il me semble que c'était lors de ce match que le premier but d'Yverdon est venu sur une perte de balle de Cogna. On lui a à peine laissé contrôler le ballon, il se l'est fait subtiliser, et puis Yverdon a égalisé.
Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, contre Lausanne, Parce que légalisation d'Yverdon, c'est sur un coup franc.
Juste, pardon, je me suis trompé d'équipe romande. mais c'est à peu près le même schéma que j'ai vu aujourd'hui. C'est des équipes qui ont envie de déstabiliser le plan de jeu servettien. Eh ben, il faut faire il faut être sur Cogna et on doit, dès la seconde où ils reçoivent le ballon, même une seconde avant si possible. Et tout le danger créé par Winterthur est venu d'une perte de balle au milieu de terrain. Alors c'était pas forcément Cogna ou Ondoua, mais effectivement, si l'équipe adverse elle décide de piéger constamment le jeu quand il passe par là, ça devient vite un problème pour Servette qui repose beaucoup sur Cogna et Ondoua pour transmettre le ballon de la défense à l'attaque et vice versa. Parce qu'ils vont vouloir passer par ces joueurs-là, et s'ils se font piéger à cet endroit-là du terrain, ben derrière, il peut se passer des choses très dangereuses. Alors, c'est pas comme ça que le but a été encaissé, mais ça formate quand même assez grandement la dynamique d'un match où Servette a été muet en attaque. 12 tirs, dont un seul cadré, c'est quand même très pauvre comme bilan.
Ouais, j'ai presque envie de dire que tout le côté entre guillemets négatif de ce match vient d'un seul joueur, sans lui jeter la pierre, parce que c'est pas ça. Parce qu'un joueur peut être moins bon d'une fois à l'autre, surtout quand on a l'habitude qu'il soit exceptionnel. Pour le coup, moi j'ai vraiment l'impression que Timothée Cogna, là aujourd'hui, il n'a vraiment pas été bon. Et ça s'est vu dans tout le jeu servettien. Quand on dit que Servette est complètement a besoin d'un Cogna en grande forme et que Cogna est complètement indispensable, bah, je pense qu'on l'a vu ce soir, que quand un Cogna n'est pas dans une grande forme, ça se ressent sur toute l'équipe. Et on le voyait en première mi-temps où c'était absolument incroyable, où Cogna ne savait pas où est-ce qu'il fallait qu'il se place. On a toujours l'habitude qu'il vient prendre ce ballon très bas avec Ondoua, avec Rouillet, avec Séverin, pour pouvoir le remonter, casser des lignes et puis aller servir les attaquants servettiens. Mais là, en fait, c'était lui qui devenait l'attaquant servettien et qui attendait une longue balle de Rouillet ou de Séverin. Et ça fonctionne pas, vu qu'il fait quand même 1m70. Timothée Cogna, et on faisait des longs ballons sur Cogna, sur Nishimura, sur Antunes, alors qu'il n'y en a pas un qui dépasse le 1m80 face à des défenseurs comme Lekai ou Arnold. C'était complètement peine perdue. Et je pense que la première mi-temps résume très très bien le match, en fait.
Tu dis ça, mais il y avait quand même plein de séquences où Cogna était défenseur central dans son positionnement, et du coup c'est soit lui qui savait pas où se mettre, soit Weiler qui savait pas où le mettre. Mais clairement que là, l'objectif de Winterthur, c'était de bousculer Cogna, et ça a marché. Parce qu'après, il n'était pas en confiance pour le reste du match. Et ça, à la limite, j'ai envie de dire, pas de problème. Ça coince dans l'axe, on passe par les ailes. Et puis, il se passait des choses du côté droit. Stevanovic, il a fait un match correct. Tsunemoto a fait un match correct. C'était pas simple. Et puis de l'autre côté, Bola était beaucoup plus à la peine. Et on a vu que des solutions se sont ouvertes à gauche quand Kuteza est entré en jeu. Mais a priori, Weiler, il aime la polyvalence. Peut-être que là, ce qui manque, c'est de la polyvalence dans son plan de jeu. Que s'il y a un truc qui ne marche pas, il faut un plan B. Et là, on a vu tout d'un coup plein de changements offensifs. Il s'est quand même rendu compte que le surnombre en phase offensive, ça pousse quand même les Uriquois à pas se lancer aussi avec autant de d'allant dans les duels. Mais c'était déjà trop tard. Le match, même s'il y avait une légère domination, il n'y avait pas vraiment d'emprise sur le match comme on avait même pu le voir sur certaines séquences à Lucerne, puis surtout pour le reste de la saison. Donc ça, à mon avis, c'est peut-être un truc à, en plus des phases de jeu précises qu'on a déjà mentionnées, c'est juste de manière générale, le schéma tactique doit avoir un plan B et même un plan C, parce que si le plan A ne marche pas et qu'on s'obstine à le tenir jusqu'à ce qu'on remarque que c'est déjà la 70e minute et il ne reste plus assez de temps pour retourner la situation, ça va être une fin de saison compliquée. Moi, je reste quand même relativement optimiste parce qu'il n'y a pas toutes les équipes qui axent leur jeu sur les failles de l'adversaire. Beaucoup d'équipes qui axent leur jeu sur leur propre force. Et ça, c'est des adversaires contre lesquels Servette peut peut-être un petit peu plus facilement jouer. Je ne sais pas si ce sera le cas du slow mercredi, mais moi, je pense qu'en tout cas, la leçon pour ce match contre Winterthur, c'est d'éviter d'avoir une réédition de ce scénario qui s'était déjà vu lors du match de janvier, sauf erreur, ou février. Janvier. On avait déjà vu ça en janvier, on a vu ça en mars. Du coup, on n'aimerait pas revoir ça en demi-finale de coupe. Mais ouais, je pense que ça, ça doit être en tout cas la leçon à retenir pour le Servette FC.
Tu parlais de plan B, et puis je vais finir là-dessus. Je pense que une des forces de Servette, quand même, c'est d'avoir la capacité d'avoir plein de joueurs en fait qui peuvent remplir des rôles. Et j'ai un petit peu peur potentiellement qu'avec le fait que Servette n'aura plus ses matchs tous les trois jours, n'aura plus besoin, ne sera plus obligé en fait de faire du tournus. Et du coup, bah, l'équipe attendue sera plus facilement contrable par l'équipe adverse qui saura en fait quels joueurs seront titulaires. Parce que on sent quand même que René Weiler a son 11 quasiment type et il va quasiment toujours faire jouer les mêmes. En tout cas, les 6 premiers joueurs sur le terrain, c'est toujours les mêmes. Mal, Tsunemoto, Rouillé, Séverin, Mazikou, Ondua et Konya, ce sera toujours les mêmes. Donc, moi je me dis que, voilà, tu parlais de plan B, je pense qu'il y a vraiment cette force en fait que Servette avait en faisant des matchs sur les 3 jours, c'est qu'ils étaient obligés de changer des plans, ce qui faisait que du coup ils étaient un petit peu moins prévisibles pour l'adversaire, et puis j'espère que cette prévisibilité sera pas trop dommageable pour la fin du championnat.
On verra déjà mercredi contre le Slow. Donc on rappelle, avec le jaune écopé durant ce match, Tsunemoto sera indisponible. De même que Jérémy Frick, qui a apparemment été blessé. Je ne sais pas si on a des infos là-dessus.
Oui, il s'est juste blessé à l'entraînement hier. Il a reçu un coup hier ou avant-hier à l'entraînement.
Ok, bon, a priori, rien de grave pour le capitaine genevois. On verra du coup s'il y a d'autres imprévus face à la Lanterne Rouge. Mais on se rappelle que si le bilan contre le Slow cette saison est positif, ça n'a que rarement été facile, si ce n'est jamais. On espère juste que... C'est qui est le joueur déjà qui a été expulsé?
Diakité, si je ne dis pas de bêtises.
Ça me semble tout à fait juste. Ouais, Diakité qui a été exclu dans ce match perdu 3-0 à domicile contre Lugano.
3-1 même. Ils sont revenus à 3-1.
3-1, effectivement. Donc on verra bien mercredi soir, on espère en tout cas qu'il y aura du monde au stade, parce qu'il faut profiter des quelques matchs, il reste quoi, 5 matchs à domicile?
Ouais, il me semble que c'est ça, il en reste 3 dans cette phase-là, et puis 2 ou 3 dans la dernière phase, on sait pas encore.
Effectivement, ça c'est encore une question ouverte dont on aura la réponse finalement qu'à partir de la 33e journée, voire un petit peu plus tôt si le duel pour la 6e place se clarifie plus rapidement. Parce que là, il y a une lutte acharnée entre Saint-Gall, Lucerne, Winterthur et Bâle. Je ne sais pas si on peut considérer que Yverdon est encore dans la course, mais ne les excluons pas tout de suite. Mais disons qu'il y a quand même une lutte pour savoir qui aura cette sixième et dernière place. Alors, j'ai mentionné Winterthur, mais là, ils sont gentiment en train de se consolider une place dans un top 5 formé. Pour le reste, donc, de Servette, Young Boys, Lugano et le FC Zurich. Winterthur est donc une sixième équipe dont on attend de voir laquelle elle sera pour ce dernier tour qui s'annonce intéressant. On va quand même noter qu'on avait aussi pu se consoler avec la bonne nouvelle que le Servette chinois féminin a consolidé sa première place au classement avant les playoffs, en attendant de voir ce que les moins de 21 de Servette vont faire demain contre le SR de Lémont. Bref, fin de saison haletante sur absolument tous les tableaux, et on espère vous revoir en ligne ou dans les travées du stade mercredi soir contre le Stade Lausanne-Ouchy. Bonne nuit.
Bonne nuit, à bientôt.